il se dressera.
Merci beaucoup, Anne. Alors, un passage qui remonte à des milliers d'années par rapport à notre situation aujourd'hui et pourtant qui a toujours des choses à nous dire ce matin. On va regarder ce que ça signifiait d'abord pour les premiers destinataires, donc des Juifs, des années 750 à 700 avant Jésus-Christ. Donc quand je vous dis ça remonte à loin, c'est vraiment vrai, hein. Et en même temps qu'on va faire cela, et qu'on va essayer d'expliquer, ok, il y a des termes un peu bizarres, assyriens, etc. On va essayer de comprendre donc ce que ça signifiait pour les gens de l'époque. On va faire ça en même temps en stéréo. On va essayer de... Je voudrais vous montrer comment on doit lire ce texte aussi, qui nous parle de situations qui sont encore tout à fait d'actualité en cette fin d'année 2014, dans notre contexte à nous, en France, à Cavaillon et dans la région. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va progresser ce matin... Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce texte à l'occasion de ce dernier dimanche avant Noël. La partie du livre de Michée que Anne vient de nous lire est d'une très grande importance. En fait, c'est une prophétie, c'est une annonce de la venue d'un roi qui va libérer le peuple de ses ennemis, qui va naître à Bethléem. Alors, je vous mets déjà sur la piste, là, hein, si vous avez un peu de connaissances bibliques. Et ça va nous permettre de réfléchir, de comprendre comme tout à nouveau le véritable sens de Noël, de cette fête. Pourquoi on fête Noël? Ça va nous donner une explication sur la raison des événements qui ont marqué le premier Noël. La naissance d'un petit garçon, ça paraît tellement anodin. Pourquoi c'est si important? Pourquoi on dit 2014 après la naissance de Jésus-Christ? Un petit garçon dans une étable à Bethléem, qui n'est pas une grande ville. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Et avant de donc partir dans l'explication de ce passage, je vous invite encore à prier avec moi. Seigneur, c'est un défi, Seigneur, d'expliquer cette prophétie. Et je te prie de m'aider, de me donner des paroles simples, des paroles faciles à comprendre, Seigneur, pour nous tous, qui vont nous exhorter, nous encourager à regarder vers toi, à la solution que toi tu avais prévue pour nous sauver de tout ce qui nous dépasse, de tout ce qui est trop grand, trop fort pour nous, de tout ce qui nous accable et de tout ce qui nous rend triste. Seigneur, et cette solution, c'est ton fils, c'est ce petit garçon qui doit naître à Bethléem. Seigneur, aide-moi à parler de Jésus dans des termes qui sont glorieux, dans les termes qui font un grand cas de Jésus-Christ, qui nous poussent à reconnaître la majesté de cette personne. Et qu'en repartant ce matin, on soit tous encouragés à le louer, à l'adorer, à mettre pleinement confiance dans ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que je te prie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Quelques mots sur Michée d'abord. C'est qui ce Michée-là qui nous écrit du fond des âges? C'est un habitant de Moréchette, un petit village situé à 35 km à peu près au sud-ouest de Jérusalem. Donc on est dans l'État d'Israël, dans la région de Palestine, tout ça. Michée, c'est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il a reçu donc un message de la part de Dieu qu'il met par écrit. Et si vous tournez avec moi à les pages, au verset 1, le tout premier verset du livre de Michée, voici les paroles que l'Éternel a adressées à Michée de Moréchette, sous les règnes de Jotham, de Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem. Donc, voyez avec moi, c'est Dieu qui est en train de parler en réalité. Et ça passe par Michée qui nous met ça par écrit et qui nous dit cette révélation qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc quand nous sommes en train de lire ce livre, quand nous sommes en train de lire ces paroles, c'est des paroles que Dieu a voulu communiquer pour nous ce matin. Et ça concerne d'abord les villes de Samarie et de Jérusalem. Vous êtes, Jérusalem, vous situez que c'est la capitale d'Israël. Samarie, c'était une autre capitale d'un autre parti du royaume d'Israël à l'époque de Michée. Le royaume d'Israël était divisé en deux. Et donc Samarie et Jérusalem sont les deux capitales des deux parties du royaume d'Israël. Et donc Dieu s'adresse en premier lieu à son peuple, le peuple qu'il avait choisi, le peuple ancien d'Israël, qui était réparti dans ces deux royaumes. Et là, on pourrait dire, oh, ben alors pas besoin pour nous d'écouter alors. on peut se dire, eh bien, puisque nous sommes à Cavaillon, on n'est pas à Samarie, on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas concerné. Mais regardez encore le verset 2 du livre de Michée, où Dieu dit, écoutez, vous tous, peuple, prête attention, terre. Alors, nous sommes bien des habitants de la terre, n'est-ce pas ? Nous sommes bien, faisons partie des peuples, pas juste le peuple d'Israël, anciennement choisi par Dieu, mais nous sommes de tous les peuples. Et Dieu dit, écoutez, vous tous, peuple. Donc, cette prophétie de Michée a aussi un sens pour tous les peuples, pour tous les habitants de la terre, pour nous. Dieu, en fait, est en train de dire à chacun de regarder ce qui s'est passé dans le pays d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Michée, parce que ce qui est arrivé dans le passé à Israël doit servir d'avertissement pour tous les peuples, pour tous les habitants de la terre, pour nous qui sommes à Cavaillon et dans la région. Et ça doit servir d'avertissement et aussi d'encouragement. Et on va se concentrer tout à l'heure sur le passage de Michée 5, où on voit cet encouragement-là de Dieu. Et la première chose, en fait, que Dieu annonce dans le passage qu'on a lu, chapitre 4, verset 14, le constat qu'on est en train de faire. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège. Avec le bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël, le chef d'Israël, le roi d'Israël. Et donc, c'est la situation de Michée, c'est la situation d'Israël à l'époque où il est en train d'écrire. Les Assyriens, qui sont une superpuissance de l'époque, sont entrés dans le pays, ont envahi tout le pays, ils sont aux portes même de Jérusalem. Ils sont assiégés, le reste d'Israël, qui s'est réfugié dans la ville de Jérusalem. On est dans les années 700 avant Jésus-Christ. Et les rois n'ont plus le pouvoir, n'ont plus la force de repousser ses envahisseurs, de repousser ses ennemis. Avec le bâton, on frappe sur la joue le roi d'Israël. Hein, comme quelqu'un qu'on nargue, on peut lui taper sur la joue, de toute façon, il est incapable de répliquer, de réagir. Et voilà l'état de désespoir dans lequel se trouve la nation d'Israël au moment où Michée est en train d'écrire de la part de Dieu. Et pourquoi cela ? D'où vient le problème ? Le problème, c'est que Dieu est en procès contre son propre peuple. Il vient en juge, il arrive en tant que juge. Michée utilise cette image de la cire qui est en train de fondre devant la flamme. Je suis désolé, on fait un petit peu des allers-retours, mais si vous regardez avec moi versets 3, 4, 5 du premier chapitre. Voici, le Seigneur sort de son lieu. Il sort de son saint temple. Le Seigneur, l'Éternel, sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent comme la cire devant le feu. Dieu vient pour juger son peuple. Et tous ces malheurs qui sont en train d'arriver au peuple d'Israël à l'époque de Michée sont le signe que Dieu est en colère, que Dieu vient pour juger. Il utilise encore cette image et on a cette vision-là, n'est-ce pas, avec les inondations qui ont eu lieu dans le Var ou dans l'Hérault ces derniers temps, comme l'eau qui dévale une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Alors vous pouvez repasser les journaux télévisés et voir toutes ces images. Ce n'est pas une image positive, n'est-ce pas ? Si Dieu vient de cette manière-là, comme l'eau qui coule d'une pente et qui ravage tout sur son passage. Ce n'est pas une image positive, n'est-ce pas ? Et vous pourrez vérifier à Noël, c'est la période où on allume plein de bougies dans les maisons. Qu'est-ce qui se passe quand la cire est mise devant la flamme ? Elle ne tient pas longtemps. Elle disparaît. Et pourquoi ? À cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Et donc Dieu est en train de nous demander à nous, qui sommes bien longtemps après ça, de regarder dans un premier temps comment il a jugé son peuple autrefois, le peuple d'Israël, avant Jésus-Christ. Et faites l'effort avec moi, qu'est-ce qu'il pouvait bien lui reprocher ? Lui reprocher trois choses. La première chose, c'était son idolâtrie, ou dans les termes encore de Michée, sa prostitution, son infidélité conjugale, si vous voulez. C'est comme dans une relation de mariage, n'est-ce pas ? Les époux devant la mairie et devant le maire, devant la société, s'engage. Il y a un texte qui est lu, qui est rappelé à chaque mariage officiel, civil. Les épouses s'engagent l'un envers l'autre. Ils se promettent fidélité l'un envers l'autre. Ils font une alliance. Et d'ailleurs, l'anneau qu'on met au doigt sert de rappel de cette alliance. Ils font une alliance qui ne devrait pas être rompue, même dans la maladie, même dans la pauvreté. Et dans un sens spirituel, le peuple de Dieu, qui était dans une alliance avec Dieu, une alliance de sécurité, une alliance de bénédiction, avec des promesses où Dieu avait dit « Moi, je vais prendre soin de vous, je vais être fidèle envers vous, le grand Dieu, le Dieu qui a créé tout l'univers, qui a toutes les ressources dans ses mains, qui dit « Je vais vous bénir et vous restez dans cette relation de proximité avec moi. » Mais ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, c'est passé aussi avec nous. Le peuple d'Israël a préféré sortir de cette alliance, se confier en d'autres dieux, chercher d'autres sécurités que la relation privilégiée qu'il avait avec le Dieu créateur de tout l'univers. Le peuple de Dieu a bafoué l'honneur de Dieu. Regardez avec moi chapitre 1, toujours verset 7. « Toutes ces statues seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles redeviendront un salaire de prostitution. » En fait, ce n'est pas juste le problème du peuple d'Israël autrefois, c'est le problème de l'humanité, c'est notre problème aussi. L'homme et la femme naturelle, l'homme et la femme sans Dieu, sont des gens qui sont sortis de l'alliance de Dieu. C'est le cas de tous les êtres humains. Tous nous avons été créés par Dieu, laissez-moi juste vous rappeler ça. Personne ne s'appartient lui-même. Et tous nous sommes en relation, nous sommes connectés avec Dieu parce que lui est l'auteur de notre vie. Et dès le départ, Dieu avait fait une alliance avec les êtres humains, avec Adam et Ève qu'il avait créés dans le jardin d'Éden. Et je vous invite à relire, si vous n'êtes pas au clair sur cette partie-là de notre histoire, Genèse 2, Genèse 3. Dans Genèse 3, Adam et Ève, nos ancêtres, ont refusé de rester dans cette alliance. Ils ont préféré suivre la voie d'un autre. Ils ont suivi le malin, le diable, qui les tentait pour dire « Ne faites pas confiance à Dieu, vous n'avez pas besoin de lui pour vivre. » Ils ont été séduits par la parole du diable qui disait « Vous pouvez être votre propre Dieu. » Vous pouvez être vos propres chefs. Et à la suite d'Adam et Ève, nous tous, êtres humains, dans toutes les sociétés de tous les temps, nous avons cédé à cette idolâtrie de croire que nous pouvons être pour nous-mêmes nos propres dieux. Et en fait, nous avons découvert que sans le Dieu vrai et véritable, il y a un grand vide dans notre vie. Et on a cherché à le remplir avec d'autres petits dieux. C'est encore la situation aujourd'hui. La deuxième chose que Dieu reproche à son peuple, c'est l'abus de pouvoir des plus forts pour opprimer les faibles par désir d'amasser des richesses. Regardez avec moi chapitre 2, versets 1 et 2. Malheureux ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais coups, et dès l'aurore, les réalisent quand ils en ont les moyens. S'ils veulent des champs, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment des hommes et leurs familles en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. Ou encore chapitre 3, verset 10. Moi je dis, c'est Dieu qui parle. Écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël, votre rôle n'est-il pas de vous préoccuper du droit? Mais vous détestez ce qui est bien. Et vous aimez ce qui est mal, vous arrachez aux gens jusqu'à la peau et à la chair qui recouvre leurs os. Oui, ils se nourrissent de la chair de mon peuple, ils lui enlèvent la peau, ils lui brisent les os, ils le découpent en morceaux, comme si c'était de la viande qu'on place dans la marmite. Et enfin, toujours chapitre 3, un peu plus haut, verset 9, « Écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël, vous détestez la justice et violez le droit. » Vous bâtissez la prospérité de Jérusalem, la ville de Dieu, sur le meurtre et l'oppression. Miché nous fait la description d'une société qui se bouffe elle-même. C'est une société anthropophage. On découpe les plus faibles, on les met dans la marmite pour les manger. C'était le cas du peuple de Dieu qui aurait dû savoir que ça ne devait pas se passer comme ça. Parce que le peuple de Dieu avait reçu une loi de Dieu, n'est-ce pas? Cette loi que Jésus résume en deux choses, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain, comme toi-même. Et le peuple de Dieu est en train de faire ni l'un, c'est-à-dire n'aimer Dieu de tout son cœur. Non, ils sont en train de chercher d'autres dieux, d'autres sécurités, d'aimer autre chose que Dieu. Ils sont idolâtres, ils sont prostitués, si vous voulez. Et ils sont en train de ne pas aimer leur prochain, puisque les plus forts profitent des plus faibles, au point même de vouloir les bouffer, de les manger, comme dans une marmite. Et il suffit pour nous, au XXIe siècle, ici à Carillon, de tourner, d'allumer la télé, de regarder un journal télévisé, de regarder une émission d'enquête sur ce qui se passe dans le monde. Et nous voyons que les produits que nous achetons, les choses que nous mangeons, même malgré nous, mais des gens, des enfants sont en train de travailler pour faire ça. Combien de cadeaux produits en Chine, voilà, je ne fais pas de la politique plus que de raison, mais hein, vont être achetés. Et des gens ont travaillé pour ça dans des conditions minables. Combien de choses que nous mangeons, et nous voulons le prix pas cher, on comprend, parce que c'est difficile de boucler les fins de mois, mais combien de gens ont travaillé dans des situations déplorables pour produire ces choses-là. Et les premiers visés, ce sont les magistrats, ce sont les gens qui ont pour rôle de se préoccuper du droit, qui ne le font pas. Mais même si nous ne sommes pas ce type de personnes-là, nous ici rassemblés ce matin, nous participons dans une société qui est de ce type-là. Et ça doit nous alerter. Ça doit nous toucher. Des familles aussi, à un niveau qui est peut-être plus un autre, qui nous parle peut-être un peu plus directement. Des familles se mangent entre elles. Même pour cette période de Noël où on désire voir l'unité, la fraternité à l'œuvre, il y aura des familles qui vont être séparées ce Noël. Et la raison principale de tout ça, c'est que le peuple, les êtres humains, n'écoutent pas les paroles de Dieu. Ils préfèrent entendre les paroles qui leur plaisent à eux. Et c'est ce que nous voyons donc au chapitre 3 au verset 6. Je lis dans une version peut-être un peu différente mais qui était plus facile à comprendre de prime abord. Verset 6, donc chapitre 3. Certains me tiennent ce discours, c'est-à-dire que certains sont en train de dire au prophète Michée, qui parle pourtant lui de la part de Dieu, donc certains sont en train de dire: cesse de débiter de tels discours, il est insensé d'affirmer que le déshonneur est inévitable. Eux, ils sont fâchés contre Michée qui annonce le jugement de Dieu, qui annonce que Dieu est en colère contre une telle société, qui le renie lui et qui n'aime pas son prochain. Et ils disent: le peuple d'Israël est-il maudit? Comment ça pourrait être possible donc que le peuple qui a été choisi par Dieu puisse finalement être jugé par Dieu? Le Seigneur a-t-il perdu patience? Et ils essayent de dire donc à Michée: arrête d'annoncer ce jugement, parce que Dieu, il est tellement bon, il est tellement plein de grâce, il est tellement patient, qu'il va bien finir par pardonner. Et il termine comme ça: a-t-il l'habitude d'agir ainsi? Et donc ils essayent de faire oublier que Dieu tient des comptes, et que Dieu ne va pas laisser sa justice indéfiniment bafouée. Il y a ce même discours aujourd'hui dans nos sociétés, où certains disent: non, on n'a pas besoin de craindre Dieu, on n'a pas besoin de revenir à Dieu, on n'a pas besoin de chercher à nous repentir, à demander pardon pour les choses que nous faisons de mal. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu va sauver tout le monde, parce que Dieu n'est pas préoccupé par la justice. Pour ce qui est de l'écoute de la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens qui mettent en doute la réalité même de Dieu, qui pensent qu'il ne va pas juger le monde, qu'il n'en serait pas capable, que ça ne fait pas partie de ses droits en tant que créateur de l'univers, en tant que Dieu. Beaucoup, encore aujourd'hui, annoncent des paroles mensongères en affirmant que Dieu ne se soucierait pas de la justice dans le monde qu'il a créé, qu'il ne condamnera pas les coupables, qu'il n'y a rien à craindre de lui. En réalité, il ne faut pas se méprendre sur Dieu, et c'est tout le sens de cette prophétie. Il a, dans le passé, jugé Samarie et Jérusalem pour leur péché, pour leur rébellion vis-à-vis de lui. Et Michée, comme je l'ai dit au début, nous interpelle, nous demande de regarder ce qui s'est passé dans autrefois pour comprendre ce qui doit encore arriver. Si Dieu n'a pas épargné son peuple du jugement, il n'épargnera pas tous les habitants de la terre qui persistent dans les mêmes atrocités dénoncées par Michée. Et là, ce qui est arrivé donc au peuple d'Israël à l'époque où Michée est en train d'écrire, c'est l'exil. C'est Dieu qui arrache son peuple de la terre qu'il lui avait pourtant promis. C'est les superpuissances, les ennemis qui envahissent le territoire. Et c'est le constat qu'on avait fait donc au chapitre 4, verset 14. Le peuple est retranché dans son dernier bastion, Jérusalem, mais sans plus aucun pouvoir. Et les rois d'Israël sont comme frappés à la joue et ne peuvent plus réagir. Alors, le constat est plutôt triste hein, jusqu'à présent. Et on est en train de se dire, est-ce vraiment la seule chose que Michée a à nous dire? Eh bien non, ce n'est pas la seule chose que Michée a à dire. De la part de Dieu, il y a aussi une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui n'a de sens que parce qu'il y a cette première mauvaise nouvelle qui vient d'abord. S'il n'y a pas besoin de libération, pourquoi se soucier d'écouter encore Dieu? Continuons à vivre. S'il n'y a pas de bonne nouvelle, pourquoi continuer à vivre ici, puisqu'il n'y a pas d'espoir au-delà de tout cela? Mais Michée nous fait une annonce qui doit bouleverser notre compréhension des choses. Et chapitre 5, il nous parle de Bethléem, une petite ville qui est rien du tout parmi toutes les villes du pays de Juda. Et il dit, « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Le Seigneur annonce qu'il va y avoir un libérateur. Alors que des troupes étrangères sont en train d'assiéger Jérusalem, il y a cette promesse magnifique. Alors regardons un peu plus attentivement ce que nous apprenons à propos de ce sauveur, de ce roi qui doit arriver. Ben d'abord, nous apprenons qu'il arrive à Bethléem et non pas dans la capitale. Il va venir dans une ville qui était la ville de naissance du roi David. Mais depuis que David y était né, elle était restée une ville quelconque. Elle est a priori insignifiante. Et pourtant, c'est là que Dieu choisit de faire venir celui qui dominera sur son peuple, un chef glorieux, un libérateur. Et d'ailleurs, c'est la grande méprise des mages. Si vous lisez cela dans Matthieu 2, et je vous fais cette lecture. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, et des mages d'Orient arrivent. Ils arrivent, ils cherchent un roi. Donc où est-ce qu'ils vont? Ils vont là où on trouve des rois, dans les palais. Ils arrivent à Jérusalem, au palais du roi Hérode. Et ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Et le roi Hérode, il dit, mais attendez, c'est moi le roi. Qui est cette personne qui vient essayer de prendre mon royaume? À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, donc tous ceux qui étaient bien au courant de ce que la Bible disait, des Écritures, pour leur demander où devait naître le Christ, le Messie, le roi choisi par Dieu. Et il n'y a pas une goutte d'hésitation, n'est-ce pas? Ils lui dirent à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée, et il cite la prophétie de Michée 5. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Donc, les gens, au premier Noël, savaient bien que le Christ, le roi choisi par Dieu, viendrait à Bethléem, conformément à ce que Michée annonce ici. Et que celui qui viendrait, ce serait le Christ. C'est-à-dire le roi final, le roi qui, après tous les malheurs, allait sauver le peuple. Et il va sauver d'abord le peuple des ennemis, de manière assez concrète, d'une manière politique, d'une manière militaire. Mais ça va être plus que ça. Parce que celui qui vient, il va dominer donc sur Israël, mais son origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Quand un enfant né à Jérusalem qui devient homme, cet homme Jésus-Christ, n'est pas juste un simple homme, mais il est quelqu'un qui est annoncé depuis longue date et dont les jours remontent même au jour d'éternité. C'est Dieu lui-même qui vient en personne sous la forme d'un être humain. Au verset 2 du chapitre 5, nous voyons que cette arrivée n'est pas pour tout de suite, à l'époque de Michée. Michée annonce « Dieu va les abandonner encore un temps, jusqu'au jour où celle qui doit enfanter, enfantera. » Et pendant tout un temps, c'est vrai, depuis la conquête des Assyriens, puis des Babyloniens, juste quelques temps après la prophétie de Michée, qui envahissent le pays, qui envoient en exil toute la population, qui déportent toute la population d'Israël au loin, il semble que Dieu a abandonné son peuple. Pendant 400 ans même, il n'y a plus de prophète qui vient, il y a du silence. Et le premier roi davidique, le premier roi qui vient de nouveau régner en Israël, c'est Jésus-Christ, qui naît humblement dans une mangeoire, dans la ville de Bethléem. Et c'est à ce moment-là seulement que Dieu décide de rassembler son peuple. Il fait revenir les frères auprès des fils d'Israël. C'est à ce moment-là que Dieu choisit de manifester sa force et de rejeter donc les Assyriens qui arrivent dans le pays. Je lis verset 3 du chapitre 5. Celui qui doit naître se dressera et les fera paître. C'est-à-dire, il va être comme un berger, il va prendre soin, il y a cette image de berger avec des moutons. Il fera paître son peuple avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce roi qui doit venir ne va pas être juste un roi important pour le peuple d'Israël, mais il va être un roi important pour tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix, verset 4. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, lorsqu'il pénétrera dans nos donjons, nous ferons lever contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Et ce roi-là va donc susciter des autres dirigeants, des autres bergers, des autres princes qui vont conduire le peuple pour résister à l'invasion des ennemis. Ce prince, ce roi éternel, c'est le même enfant qui naît à Bethléem, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour repousser l'ennemi. Et le plus grand ennemi, ce qui avait été dénoncé par Michée dans la prophétie, n'était pas juste les circonstances donc extérieures défavorables au peuple, ses ennemis en chair et en os, assyriens qui entraient. Et tout cela, c'était la conséquence d'un ennemi plus grave, plus discret, plus intérieur. C'était l'ennemi, le péché, la rébellion qui sévit dans le cœur des êtres humains. Et qui amenait ce jugement-là de Dieu contre ceux qu'il avait choisis. Mais nous voyons ici que Dieu, avec cet enfant, avec Jésus-Christ, va assurer la paix. Il va donc donner un moyen de réconcilier, d'échapper au jugement de Dieu. Cette paix qui est promise, c'est la paix avec Dieu, la paix du cœur, la paix par rapport au péché. Et c'est le sens de toute l'incarnation. C'est Dieu qui restaure en nous cette capacité de le voir à nouveau. Alors que le peuple d'Israël et nous tous, on avait détourné les regards de lui, c'est la possibilité de voir qui est Dieu. Et quand nous voyons Jésus-Christ, quand nous entendons ses paroles, quand nous le voyons vivre, poser les actes qu'il a posés, quand nous le voyons ultimement en train de donner sa vie sur la croix pour sauver des pécheurs, pour payer à la place de ceux qui étaient coupables, Dieu est en train, en fait, de restaurer notre capacité de voir comment sa justice et son amour sont résolus. Quand nous entendons Jésus parler, c'est la capacité qui nous est restaurée de entendre à nouveau Dieu, de l'écouter, de le connaître et de nous réjouir dans sa présence. Le Messie qui doit venir, le roi qui doit venir, annoncé par Michée dans le chapitre 5, sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas juste un roi limité à la tribu d'Israël. Ce n'est pas un roi qui est réservé qu'à certaines personnes. Mais c'est un roi qui veut être roi, qui doit être roi des rois, seigneur des seigneurs, sur tous les habitants de la terre. Michée annonce cela 750 ans avant que Jésus n'arrive effectivement. N'est-ce pas incroyable? Et je voudrais conclure avec ça. N'est-ce pas incroyable pour nous de réaliser que Dieu avait un plan bien établi de longue date et que rien n'est venu se mettre en travers de ce plan, qu'il a tout accompli comme il l'avait promis? Il y a encore des promesses à venir. Jésus est venu d'abord pour sauver. Et ce que Michée n'avait pas vu, c'était que le jugement qu'il était en train d'annoncer aussi n'allait pas être pour tout de suite. Ce jugement est décalé. D'abord, Jésus vient pour sauver. Mais il y a encore cette réalité-là, que Jésus va revenir pour juger. Et donc, ne doutons pas que si Dieu a conduit son plan éternel, a été fidèle à sa parole jusqu'à donc Jésus-Christ, jusqu'à nous aujourd'hui, il va aussi être fidèle quand il dit qu'il va juger ceux qui continuent, qui persistent dans la rébellion contre lui. Ne doutons pas non plus alors que si Dieu promet que en Jésus-Christ, il y a possibilité d'être délivré du péché, délivré des ennemis, délivré des circonstances malheureuses dans lesquelles nous devons vivre. Si Michée annonce qu'en lui, en Jésus-Christ, il y aura la paix, ne doutons pas que cela soit vrai. Et faisons confiance à Jésus-Christ. Cherchons à le connaître, lui. Cherchons à nous réfugier en lui. Revenons dans l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Et louons-le et adorons-le, car il est celui qui va régner, qui est déjà en train de régner maintenant et qui va régner pour l'éternité. Il n'est personne qui a de plus haute autorité que Jésus-Christ dès maintenant sur terre. Et notre réponse appropriée devrait être de nous humilier devant lui, de reconnaître le problème du péché dans nos cœurs et de chercher son pardon. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant et je vous invite à prier pour terminer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette prophétie, pour cette annonce, bien avant les temps que tu avais fixés, cette annonce de la venue d'un enfant, la venue d'un roi pour libérer ton peuple, pour le ramener à toi, pour établir de nouveau la paix avec ton peuple. Seigneur, nous te remercions que tu as tenu parole en donnant ton Fils Jésus-Christ, en le faisant naître de Marie au premier Noël à Bethléem, comme tu l'avais indiqué. Seigneur, nous réalisons que Jésus, quand il est venu, n'avait pas pour objectif premier de résoudre tous les problèmes politiques, économiques de son pays, mais il était d'abord concerné par ramener un peuple nombreux, des Juifs et des non-Juifs, vers toi, notre Dieu, notre Créateur. Il est venu pour nous détourner de l'idolâtrie qui nous guette. Il était venu pour nous rappeler l'importance d'aimer son prochain. Et lui-même a manifesté cet amour de manière incroyable pour toi et pour nous, en donnant sa vie à la croix. Nous qui devions être jugés à juste titre pour toutes nos infidélités vis-à-vis de toi, nous qui devions mourir selon la juste sentence qui doit tomber sur ceux qui pêchent. Eh bien, toi, Dieu, tu as choisi de faire porter la punition à Jésus-Christ. Et Jésus a accepté de prendre cette punition à notre place, de donner sa vie pour nous à la croix. Ta justice est satisfaite une fois pour toutes par son sacrifice sur la croix. Et donc, il est possible pour nous de trouver en lui le pardon, la réconciliation avec toi. Seigneur, que cette pensée, que cette parole puisse vraiment toucher les cœurs, nos cœurs ce matin. Que cette bonne nouvelle nous puissions la méditer dans les prochains jours, alors que nous nous apprêtons à fêter Noël. Que nous puissions nous réjouir que tout ce que tu as annoncé, tu as tenu parole. Et Seigneur, tu promets encore de revenir pour juger toute injustice qui persiste encore dans ce monde et pour prendre avec toi dans un lieu parfait, dans le paradis, tous ceux qui auront mis leur confiance en Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons vraiment à ces promesses qui sont encore à venir. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider encore à les comprendre et à attacher notre vie à toutes ces paroles que tu nous as adressées. C'est dans le nom de Jésus que je t'en prie. Amen.